En tant qu'homme, François de Sales était tout à fait remarquable. Il a dit « Une grande misère parmi les hommes, c'est qu'ils savent si bien ce qui leur est dû et qu'ils sentent si peu ce qu'ils doivent aux autres. » L'apôtre Pierre aurait acquiescé sans hésitation à cette observation sur la nature humaine, car sa dévotion aux autres était sans limite. Je commence à lire le chapitre 5 de sa première épître. « Je ferai à présent quelques recommandations à ceux parmi vous qui sont responsables de l'Église. Je leur parle en tant que responsable comme eux et témoin des souffrances du Christ, moi qui ai aussi part à la gloire qui va être révélée. » Verset 1. Le mot pour recommandation signifie « appeler à côté de « encourager ». Il est souvent associé au ministère du Saint-Esprit. Le mot pour responsable a donné presbytère en français et signifie ancien ou vieille personne. Pierre comprend les difficultés des anciens étant lui-même responsable comme eux. Cette expression est un seul mot et veut dire collègue presbytère. L'autorité de Pierre provenait de son expérience personnelle, mais aussi du fait qu'il était apôtre et témoin des souffrances du Christ. Pourtant, il ne cherche pas à s'élever au-dessus des autres responsables d'Église. Alors qu'il aurait pu profiter du respect qu'on lui porte pour faire briller son image de marque, il choisit de se mettre à leur niveau et compatit à la lourdeur de leur charge. Pierre se désigne également comme quelqu'un qui a aussi part, qui va participer à la gloire qui va être révélée. En compagnie de Jacques et Jean, Pierre avait assisté à la transfiguration de Jésus, mais cette gloire qu'il a vue sur la montagne n'est rien comparée à celle qui sera manifestée quand le Seigneur reviendra en force avec tous ses anges pour établir son royaume de 1000 ans sur terre. Les persécutions que les croyants subissaient déjà dès la première moitié du premier siècle amène Pierre à exhorter les anciens à prendre en main leurs brebis désemparées. Je continue le texte. « Comme des bergers, prenez soin du troupeau de Dieu qui vous a été confié. Veillez sur lui, non par devoir, mais de plein gré, comme Dieu le désire. Faites-le non pour un gain sordide, mais par dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. » Versets 2 et 3. L'ordre de prendre soin du troupeau de Dieu avait été donné à Pierre par le Christ ressuscité. L'apôtre remplit ce rôle de pasteur des pasteurs en écrivant cette lettre. Il faut savoir que l'Église primitive avait adopté la structure des synagogues. Chaque assemblée nommait un collège d'hommes pieux et compétents qui devaient surtout être éloquents par leur mode de vie exemplaire. L'apôtre Paul encourageait même ses brebis à l'imiter. Le responsable d'Église n'est pas un politicien qui essaye de plaire en disant à ses ouailles ce qu'elles veulent entendre. Son rôle est de veiller sur le troupeau, de le diriger, de le surveiller et de le nourrir par un enseignement fidèle à la vérité des Écritures, afin d'édifier les croyants et de les protéger contre l'erreur et le péché. L'ancien doit éviter trois écueils. Le premier est d'accepter cette charge parce qu'il se sent forcé et obligé, alors que ce devrait être un élan du cœur et un appel de Dieu. En second lieu, il ne doit pas être motivé par un intérêt douteux, mais par un esprit de service. L'expression « gain sordide » désigne l'enrichissement honteux des faux prophètes qui extorquent l'argent des brebis en les manipulant. Ce sont des faux bergers, des charlatans et des hérétiques qui se font passer pour des serviteurs de Dieu afin de s'enrichir aux dépens de leurs victimes. Il ne faut pas que l'ancien confonde sa fonction avec une vache à lait, mais au contraire, il doit se montrer désintéressé. L'apôtre Paul dit qu'il était prêt à se dépenser sans compter. Cela ne veut pas dire que le pasteur doit vivre dans la misère sous prétexte qu'il devrait faire vœu de pauvreté. En effet, Il ne faut pas les confondre avec un ordre de moines mendiants. D'ailleurs, ces derniers, même s'ils ne possèdent rien, il ne leur manque rien non plus et ils habitent souvent dans un cadre paradisiaque. En troisième lieu, le berger ne doit pas chercher à dominer sur les brebis à l'exemple d'un certain Diotrephe que mentionne l'apôtre Jean. Toute forme de gestion autocratique et tyrannique qui utilise la démagogie et l'intimidation est une perversion de la fonction pastorale. En effet, l'ancien doit garder à l'esprit que le troupeau qui est sous sa garde lui a été confié. Ce n'est pas le sien car il appartient au Seigneur. Il doit donc être un modèle de tendresse et dirigé par son exemple. Je continue le texte. Alors, quand le chef des bergers paraîtra, vous recevrez la couronne de gloire qui ne perdra jamais sa beauté. Verset 4. À cette époque, le vainqueur des épreuves sportives ne recevait pas un trophée ou une médaille comme aujourd'hui, mais une couronne de laurier qui séchait rapidement. Pierre désigne Jésus comme le chef des bergers, mais ailleurs il est aussi appelé le vrai berger, le bon berger et le grand berger. Quand il reviendra, ses assistants bergers qui auront été fidèles partageront sa gloire et recevront une couronne incorruptible qui ne s'altérera jamais. Les croyants qui œuvrent pour le Seigneur ne travaillent pas pour rien, car ils recevront des récompenses. Le Nouveau Testament mentionne aussi la couronne de gloire, celle de la justice et la couronne de vie. Elle désigne différentes facettes de la bénédiction éternelle que recevront les élus qui auront été fidèles à leur maître. Je continue. Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles ». Verset 5. Pour étayer son exhortation, Pierre cite un passage du livre des Proverbes selon l'ancienne version grecque. Tout comme dans les synagogues, les responsables des églises étaient choisis parmi les hommes les plus âgés et les membres de l'église, et en particulier les jeunes, devaient se placer volontairement sous leur autorité. Le verbe pour se placer sous est un terme militaire et il est à l'impératif, c'est donc un ordre. Dans un autre passage, on lit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Tous, jeunes et vieux, sont exhortés, revêtez-vous d'humilité. Le verbe se revêtir signifie attacher quelque chose sur soi, et il a pour racine le nom du tablier que portait un esclave. Le mot pour humilité veut dire abaissement de soi et correspond à quelqu'un qui sert les autres de bon cœur. Quand Pierre écrit ces lignes, il avait probablement à l'esprit Jésus, le jour où il a mis un linge autour de sa taille pour laver les pieds des disciples. C'était un acte révolutionnaire, parce qu'au premier siècle, les païens et même les juifs ne considéraient pas l'humilité comme une vertu, mais comme une faiblesse ou un signe de lâcheté. Je continue. Tenez-vous donc humblement sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève au moment qu'il a fixé. Verset 6. Pierre exhorte ses lecteurs qui souffraient à cause de leur foi de ne pas répondre à l'injustice de ceux qui les persécutaient verbalement ou autrement, mais d'accepter cette humiliation comme une discipline venant de Dieu qui, au moment voulu par lui, les retirera du creuset de l'adversité. Par contre, faire justice soi-même, c'est rejeter la grâce bienveillante du Seigneur et sa délivrance quand l'épreuve aura accompli son objectif. Je continue. Déchargez-vous sur lui, sur Jésus, de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Verset 7. Le mot pour décharger signifie jeter quelque chose sur autre chose ou sur quelqu'un, comme par exemple jeter une couverture sur un animal. Quand Pierre écrit ces lignes, il pensait peut-être aux paroles du psalmiste qui dit « Rejette ton fardeau sur l'Éternel, il prendra soin de toi ». Les croyants doivent jeter sur le Seigneur tout ce qui les perturbe, quoi que cela puisse être. La crainte, le doute, le découragement, peu importe. Tout ce qui les tient en souci, parce qu'ils peuvent compter sur son amour, sa fidélité, sa puissance et sa sagesse. La confiance du croyant repose sur le fait que Jésus s'intéresse vraiment à son bien-être, même s'il est momentanément dans la souffrance, comme c'était le cas des lecteurs de Pierre. Le Seigneur a dit aux foules qui les suivaient, « Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. » Et l'apôtre Paul écrit, « Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. » Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Je continue le texte. Soyez sobre, soyez vigilant. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Verset 8. On a déjà rencontré le mot traduit par « soyez sobre » quand Pierre a dit à ses lecteurs « en menant une vie sobre, mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. » Ici, le verbe traduit par « soyez sobre » est un impératif. À l'origine, il se rapportait à la maîtrise de soi dans le domaine de la boisson. Mais dans le Nouveau Testament, il veut plutôt dire « soyez disciplinés dans vos pensées ». Pierre ordonne donc à ses lecteurs d'être constamment sur le qui-vive à cause de l'ennemi qui rôde. Et pour renforcer son avertissement, il ajoute « Soyez vigilants » aussi au mode impératif. L'apôtre Paul utilise les deux mêmes mots « sobre » et « vigilant » quand il écrit « Ne dormons donc pas comme le reste des hommes, mais restons vigilants et sobres ». Dans les Écritures, le diable est considéré comme l'adversaire permanent de Dieu et l'ennemi personnel des croyants. Le diable dirige le royaume des ténèbres et gère le système corrompu de ce monde. Infatigable, il ne se repose jamais. Tel un prédateur qui est constamment à la recherche d'une proie facile, il rôde, il renifle. Pierre compare Satan à un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Le mot pour dévorer signifie engloutir, car l'objectif du diable est de détruire ou de rendre les croyants infructueux. Pierre utilise une métaphore, mais d'un autre côté, les rugissements du lion qui terrorise et paralyse sa proie correspondent aussi aux calomnies et aux persécutions qui intimident ou effraient les croyants. D'autre part, à Rome avaient lieu des spectacles sanguinaires où des condamnés à mort étaient déchirés par des lions pour amuser les Romains, et beaucoup de chrétiens finirent de cette manière. Cela dit, vous aurez peut-être un jour affaire à des démons, mais vous ne rencontrerez jamais Satan en personne, car il a d'autres chats à fouetter que vous, le menu fretin. On trouve le diable dans les chancelleries, les ambassades, dans les couloirs que fréquentent les grands du monde politique ou de la religion. Satan encourage souvent les hommes à faire le bien et les berce d'illusions sur leur propre compte. Curieusement, les gens pensent obtenir le ciel parce qu'ils ne font pas de mal aux autres, s'occupent bien de leur famille, respecte la loi et donne de temps en temps un bout de pain à un miséreux. Ces idées leur sont insufflées par des démons, et quand ils les gobent, ils ne ressentent pas le besoin d'un sauveur. Je continue le texte. « Résistez au diable en demeurant ferme dans votre foi, car vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. » Verset 9. Le mot pour « résister » est un impératif qui est également utilisé par Jacques quand il écrit « Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. » Littéralement, Pierre dit « Prenez position contre le diable et renforcez votre position par la foi. » Cette description fait penser à une armée qui se tient compacte face à l'ennemi. Les croyants doivent se soutenir mutuellement et lutter ensemble. Chacun doit se revêtir de l'armure de Dieu que l'apôtre Paul décrit et où il dit « En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. » La soumission à Dieu et la fermeté dans la foi sont les deux armes défensives qui permettent de mettre le diable, c'est-à-dire les démons, en fuite. Comme Satan est menteur et séducteur, le seul moyen de lutter contre lui, et donc de lutter contre les démons, est d'obéir fidèlement à l'enseignement des Écritures. Je continue le texte. Mais quand vous aurez souffert un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Verset 10. La souffrance des croyants persécutés ne durera qu'un peu de temps, qui n'est absolument pas comparable à leur gloire en Jésus-Christ qui, elle, sera éternelle. Aucun être humain est une source de gloire et l'Église glorifiée ressemble à la lune qui renvoie simplement la lumière du soleil. Pareillement, dans les cieux, la gloire des élus reflétera celle de Jésus. Cette bénédiction de Pierre résume brièvement le message d'encouragement et d'espérance de toute l'épître. L'apôtre décrit la maturité spirituelle et l'aboutissement final de la vie du croyant avec quatre mots au sens très proche. Ils expriment la force et la stabilité que Dieu désire pour chaque croyant. Dieu veut les établir fermement sur le fondement de la vérité, de la révélation divine, où ils se tiennent dans la foi et l'espérance jusqu'à leur arrivée dans la gloire éternelle. Je continue le texte. À Jésus-Christ appartient la force pour toujours. Amen. Verset 11. Pierre utilise le mot « force » plutôt que « puissance » parce qu'il est davantage concret, plus parlant, et donc plus à même d'encourager les croyants qui souffrent. Cette bénédiction finale est une courte doxologie où Pierre se réjouit de ce que par sa force toute puissante, Dieu domine sur toute chose au siècle des siècles. Parce que Dieu possède la sagesse, le pouvoir souverain et l'autorité sur toutes ses créatures, en réponse aux exhortations de l'apôtre et des promesses qui leur sont attachées, les croyants devraient faire constamment monter vers lui leur adoration et leur louange. Je continue. Par Sylvain, ce frère fidèle, je vous ai écrit assez brièvement pour vous encourager et vous assurer que c'est bien à la véritable grâce de Dieu que vous êtes attachés. Verset 12. À partir d'ici, c'est Pierre qui prend la plume. Jusqu'à présent, c'était Sylvain, aussi appelé Silas, qui en tant que frère fidèle et secrétaire particulier écrivait la lettre sous la dictée de l'apôtre tout en participant à sa rédaction. On sait aussi que c'est lui qui la porta à ses destinataires. Pierre résume ici l'objectif de l'épître qui est d'encourager les croyants à tenir ferme malgré les souffrances et de les assurer qu'ils sont bien attachés à la véritable grâce de Dieu. Je continue. Recevez les salutations de l'élu qui est à Babylone et que Dieu a choisi. Mon fils Marc vous envoie aussi ses salutations. Verset 13. L'expression « l'élu qui est à Babylone » est un code. Il s'agit de l'Église qui est à Rome. Comme je l'ai déjà dit, sachant que de sévères persécutions allaient être lancées contre les chrétiens, Pierre voulait protéger ceux qui habitaient dans l'œil du cyclone. La désignation de Babylone rappelle aussi qu'à l'image des Israélites après leur déportation au VIe siècle avant Jésus-Christ, le peuple de Dieu vit en exil parmi les païens. Marc, quant à lui, est l'auteur de l'évangile qui porte son nom et le cousin de Barnabas, compagnon de Paul dans sa première tournée missionnaire. Pierre appelle Marc son fils au sens spirituel du terme parce que c'est lui qui l'avait amené à la foi en Jésus-Christ. Je finis la première épître de Pierre. Donnez-vous les uns aux autres le baiser fraternel. Paix à vous tous qui êtes unis au Christ. Verset 14. Le baiser fraternel était la façon dont les croyants de l'Église primitive se saluaient et le signe de l'amour qu'ils avaient les uns pour les autres. Pierre ne souhaite pas la fin des persécutions ou la prospérité pour ses lecteurs, mais la paix de Dieu. Combien de gens, immensément riches, donneraient toute leur fortune en échange de cette paix.